France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Benoît Dutertre a-t-il cherché ses clés ce matin avant de venir dans ce studio? A-t-il mis deux chaussettes de couleurs différentes? Je ne vois pas. Voilà quelques détails en tout cas de la vie quotidienne de l'homme de lettres et de radio qu'on découvre en lisant son nouveau livre, Ma vie extraordinaire, qui vient de paraître chez Gallimard. Bonjour Benoît Dutertre.
Bonjour Jean-Baptiste.
De l'autre côté du micro ce matin, étonnez-moi Benoît, tous les samedis à 11h sur France Musique depuis bien longtemps, et comme vous le racontez d'ailleurs dans ce livre, entre autres, c'est comme invité que vous avez commencé sur cette chaîne.
Oui, c'est vrai, c'était en fait parce que j'étais déjà, je commençais à me passionner pour des choses un peu rares comme la musique légère, l'opérette, l'accordéon, et c'est un de nos grands devanciers, Jean-Michel Damian, qui avait eu l'idée de m'inviter, voilà, pour venir parler de ces choses un peu bizarres dans son émission, et c'est devenu une habitude, et j'ai pris beaucoup goût à la radio, et grâce à Jean-Michel, on avait pu faire des émissions sur Reynaldo Hahn, Messager, etc. Et voilà, je lui dois beaucoup de cette curiosité qu'il a eue à ce moment-là, parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, ces genres musicaux étaient avaient complètement disparu en fait de l'antenne de France Musique, alors qu'ils avaient été très importants jusqu'à aux années 70, et puis voilà, il y avait eu une espèce de creux de la vague. Et voilà, et partant de ces après-midi avec Damien et quelques autres passionnés, bah, peu à peu, je me suis dit, tiens, il faudrait vraiment relancer la musique légère à la radio. Et je raconte ça effectivement un peu dans ce livre, parce que pour moi, c'est une des aventures, si j'ose dire, extraordinaires de ma vie. Ça a été de cette découverte émerveillée des derniers témoins de tout un monde musical disparu, voilà, que je mets à l'honneur le samedi matin.
Ma vie extraordinaire, un livre en trois parties, une partie apprentissage, une partie sur cette traversée de la vie adulte, et puis une partie que vous appelez vieillesse. Enfin, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, j'ai le livre là, sous le titre est écrit roman. Alors c'est un peu cliché de poser cette question, mais bon, finalement, on se pose toujours la question. C'est pas votre premier livre qui parle de vous, mais là, un livre autobiographique. Alors que c'est écrit roman, pourquoi? Pour qu'on ne sache pas ce qui est vrai et ce qui est faux?
Non, bon, si j'étais peintre, j'aurais dit autoportrait, hein, c'est de la peinture quand même. Un autoportrait, c'est une œuvre de peintre au même titre qu'un paysage ou qu'un... là, j'ai dit roman parce que je pense que c'est une œuvre littéraire, personnelle. Vous savez, le roman, évidemment, si on s'en tient au sens strict de la fiction, on va dire que ça n'est pas un roman. Mais le sens du mot roman, on le sait, au fil du XXe siècle, a beaucoup évolué. Toute œuvre littéraire, personnelle, composée avec des personnages, avec des histoires, comme une espèce de voyage dans le temps, ça peut s'apparenter à un roman. D'autant plus qu'il y a même une part de fiction dans ce livre, même si elle est réduite. Mais je veux dire, je crois que je suis loin d'être le premier romancier à jouer avec l'autobiographie, avec l'histoire, avec l'essai, avec la fiction, et à mêler tout ça dans ce qui est une œuvre, voilà, j'espère, très personnelle en tout cas.
Et un fil conducteur dans ce livre, c'est la musique, les musiques, de la Passionata à Suzy Delair, d'une marche militaire de Schubert à Maurice Chevalier.
Je suis peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur les ardoises des bistrots. Le tabac du coin, c'est mon palace, où le soir je retrouve mes poteaux. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse, en douce je me pousse les hommes. Je le crois, font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Je suis vraiment un type des plus nature. J'ignore le chiquet. Non mais à rien faire, la vie est assez dure, sans se la compliquer. Je comprends pas qu'on se démanche quand on a tant besoin de repos. Il y en a qui travaillent le dimanche. Alors là, je leur lève mon chapeau. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse en douce. je me pousse les hommes, je le crois, font du souci. Pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Des femmes, il m'en faut comme à tout le monde. Oh, mais je m'en embarrasse pas, hein. Quand je veux une brune ou bien une blonde, je choisis dans le temps. Comme j'ai pas de pèse, je suis à l'aise pour leur promettre tout ce qui leur plaît, hein. Mais quand j'en pince, oh, je suis bon prince. En partant, je leur laisse mon portrait. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse. Les hommes, je le crois, font du souci. Pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi pélard que moi.
Maurice Chevalier à 8h35 sur France Musique. Ça n'est pas, étonnez-moi, Benoît. On n'est pas le samedi à 11h, mais Benoît Duterte est l'invité ce matin de Musique Matin pour ce livre, Ma vie extraordinaire, qui vient de paraître chez Gallimard. C'est, je pense, la chanson qui revient le plus dans ce livre. Qu'est-ce qu'elle vous évoque quand vous l'entendez ici?
Alors, il faut dire que ce livre, donc, effectivement, la première partie, vous avez dit, sorte d'initiation. Je parle beaucoup de mon enfance et notamment de ce paradis qu'ont été pour moi les vacances dans le massif des Vosges, dans une maison perdue dans la montagne, et de cet enchantement donc de tous mes étés. C'était la maison de mon grand-oncle, l'oncle Albert, qui est personnage très important du livre, qui avait été un héros de la résistance, qui était un personnage haut en couleur, qui était gouailleur, un peu canaille, qui avait vécu à Paris dans les années 20 et qui nous fascinait. C'était pour nous un peu notre héros à contre-courant du côté plus bourgeois de la famille, et il adorait Maurice Chevalier parce que c'était toute sa jeunesse. Il avait grandi avec les refrains de Momo et de Mistinguette, et il fredonnait ça à longueur de temps. Et rétrospectivement, d'ailleurs, ça m'amuse d'autant plus que lui, qui avait été vraiment un grand résistant, décoré de toutes les médailles, etc., un aventurier, il adorait Chevalier, alors que de nos jours, dès qu'on prononce le mot de Chevalier, on renvoie tout de suite ça aux années sombres, aux années 40, au fait qu'il était allé chanter en Allemagne. Visiblement, pour mon grand-oncle résistant, ça n'avait pas d'importance. Chevalier, c'était voilà le héros un peu voyou et chanteur de ces jeunes années.
Des souvenirs d'enfance très précis. Vous dites d'ailleurs qu'ils sont toujours plus précis que le reste de la vie. Et vous vous en rendez compte chaque samedi avec vos invités. Benoît Duterte, comment ce livre est-il né? Est-ce que c'est le jour où vous avez soufflé vos 60 bougies l'an dernier?
Pas vraiment. C'est-à-dire que depuis longtemps, surtout, je voulais faire vraiment d'abord un livre sur ce couple, Rosemonde et Albert, donc mon grand-oncle résistant, et sa femme qui avait 20 ans de moins que lui, ce qui apportait encore une note un petit peu plus étrange. Ils n'avaient pas d'enfants, on passait nos vacances chez eux dans cette maison vosgienne. Et voilà, je voulais rendre hommage à ces deux personnages qui ont vraiment été les... qui ont accompagné toute mon enfance, qui m'ont rendu heureux, et au fait qu'effectivement, toute la vie, je crois, aujourd'hui, en tout cas toute ma vie, voilà, quand j'ai une angoisse, quand je me sens pas bien, à quoi je me raccroche sont toujours des images, voilà, de la forêt vosgienne, des promenades en voiture avec l'oncle Albert, de ces sorties dans une France qui ressemblait encore un peu à celle du 19e siècle, et voilà, je voulais rendre hommage à ces personnages. Puis après, je me suis dit, dans un deuxième temps, mais... tout mon âge adulte, toute ma vie actuelle, finalement, j'en ai pas beaucoup parlé parce que l'apprentissage, on y revient tout le temps, vous l'avez dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est que toutes ces années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et j'ai voulu développer cet autoportrait pour parler de ma vie d'adulte, en commençant, vous l'avez dit tout à l'heure, par expliquer que je pense que ma plus grande activité d'adulte, ça a été la recherche de mes clés, de mes lunettes, et de la deuxième chaussette des pères disparus. Donc ça, c'est le côté très prosaïque et drôle, j'espère.
Et avec des scènes cocasses, hein, voilà. Parce qu'on découvre Benoît Duterte, acrobate, dans ce livre. Benoît, quand on se tourne, quand on se retourne sur son passé, est-ce douloureux?
Non, en l'occurrence, c'est pour moi pas tellement douloureux, c'est au contraire plutôt quelque chose de réconfortant que ces parfums, ces images de l'enfance, etc., ces choses qui reviennent tout le temps. Simplement, je m'aperçois, et c'était aussi ça un peu le défi romanesque, si j'ose dire, en racontant l'histoire de ce couple de Rosemonde et Albert, c'est que finalement ces personnages qui ont été si importants dans mon enfance, il y a plein de trous dans leur biographie, dans leur vie, et ce livre c'était aussi presque une espèce de petite enquête sur des personnages très familiers, mais dont je ne savais finalement pas grand-chose. Il a fallu que je retrouve les archives, que je reconstitue, voilà comment ils se sont rencontrés pendant la guerre, comment elle l'a sauvé de la Gestapo, comment il est parti un moment de sa vie loin, un peu comme le personnage du Voyage au bout de la nuit en Afrique, puis ailleurs, avant de revenir à Paris. C'était un personnage qui a eu beaucoup d'aventures mystérieuses, et il y avait aussi ce côté un petit peu enquête dans ce retour sur mon passé, le passé familial.
Douloureux nom, donc. Est-ce vaniteux ?
Oh, je pense pas, parce que je crois que le livre est écrit avec une bonne part d'ironie, d'auto-ironie.
Vous évoquez la vanité dans le livre.
Bien sûr, je m'en moque même, puisque je fais tout un retour sur ma vie d'écrivain, sur mes ambitions, sur les ambitions déçues parfois, mais je voulais être au plus près de la réalité, d'une forme de sincérité qui n'est, je crois, un peu le contraire de la vanité, de montrer les choses voilà, telles qu'elles se sont déroulées, telles qu'elles se sont enchaînées pour moi, avec aussi mes ridicules, je vous dis, mes ambitions déçues, tout était extrêmement près du fil de ma vie. Et évidemment, on peut trouver l'exercice en soi vaniteux de se dépeindre. Mais ma vie extraordinaire, si on ne comprend pas que c'est un titre évidemment ironique, qui veut dire justement qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans une vie banale, finalement. Ma vie n'est peut-être pas tout à fait banale, comme aucune vie n'est banale, mais c'est quand même une vie relativement ordinaire, et je vais essayer de rechercher dans mon enfance, dans ma vie d'adulte, et encore aujourd'hui, tout ce qu'il y a d'enchanteur et tout ce qui nous aide à traverser cette vie et tout ce qui l'illumine. C'est pour ça que c'est plutôt un livre de bonheur, j'espère, par certains aspects.
Le merveilleux, le jardin d'Éden de ces Vosges, le Grand Valtin, commune du Ban-sur-Meurthe.
Commune de Ban-sur-Meurthe,
quand vous voyez le nom apparaître, dans ce jardin d'Éden, c'est ce que vous écrivez. Est-ce que on embellit ces souvenirs, ces odeurs, ces sons de la maison que vous évoquez? Est-ce que vous pensez que, et auxquels on se raccroche quand on va mal? Pensez-vous, Benoît Dutertre, que ça s'embellit avec le temps?
C'est tout le mystère des sensations d'enfance. Je veux dire, beaucoup d'écrivains ont écrit sur ce sujet. C'est sûr qu'il y a une force des parfums, des couleurs, des formes, des êtres, des voix, des caractères, quand on est enfant, qui vous imprègne et qu'on a peut-être un peu de mal à retrouver tel quel ensuite. Et c'est vrai que chaque fois que je suis retourné, si j'ose dire, sur les lieux du crime, c'est-à-dire sur les lieux de mes enchantements vosgiens, j'ai encore une maison là-bas, mais quand je retourne dans cette maison qui n'est plus la mienne, où j'ai grandi d'un été à l'autre dans un bonheur total, je me dis... je suis un peu déçu, quoi. Ou est-ce que ce sont les nouveaux propriétaires qui ont gâché les lieux? Est-ce que c'est la transformation du paysage qui a été? Ou est-ce que effectivement mes impressions étaient embellies et magnifiées par le fait que j'étais un enfant? Je ne sais pas. Ça, c'est une vraie question en tout cas.
Et dans ces impressions, il y a la musique, les musiques de l'enfance, la transmission de l'amour de la musique par votre grand-tante Rosemonde et notamment Beethoven.
Thank you.
Le début de cette sonate dite « Au clair de lune » de Beethoven, interprétée ici par Michel D'Alberto, qui revient aussi plusieurs fois dans « Ma vie extraordinaire », le nouveau roman de Benoît Dutertre, notre invité ce matin. Benoît, vous validez le tempo assez allant de Michel D'Alberto ?
Oui, moi, dans le répertoire classique, genre Mozart, Beethoven, je suis plutôt pour l'idée qu'il faut aller un peu vite dans les mouvements lents et un peu lent dans les mouvements vite. J'aime bien le demi-tempo, c'est mon côté classique peut-être. Et en tout cas, oui, c'est vrai que cette sonate évoque pour moi voilà toute cette enfance merveilleuse dans ce moulin des Vosges, auprès des forêts, des pâturages, et ma grand-tante qui était une jeune femme qui avait failli devenir pianiste, et qui me faisait travailler le piano, et qui de temps en temps, avec toute la famille réunie, nous jouait la sonate au clair de lune en entier, y compris le final plus virtuose, et puis là aussi la Passionata et quelques autres œuvres. Son père était musicien, elle avait voulu être musicienne, et elle a voulu me transmettre un peu cet amour de la musique, et jusqu'à la fin de sa vie, il n'y a pas si longtemps que ça, presque centenaire, et d'ailleurs elle m'écoutait chaque samedi sur France Musique, et elle me téléphonait pour me faire ses commentaires.
Elle envoyait des lettres, pas toujours aimables d'ailleurs.
Elle supportait pas quand je passais Yvonne Printemps. Elle avait une allergie pour Yvonne Printemps.
Quand elle chante Poulenc.
Voilà. Donc elle me disait, c'est bien, continue de me passer Yvonne Printemps, j'en profiterai pour passer l'aspirateur. Mais par contre, alors dès que je passais Maurice Chevalier, Miss Tinguette ou Suzy Delair ou d'autres, elle était ravie parce que c'est tout ce qu'elle aimait, ma tante Rosemonde. Oui.
Vous
jouez ? Qui est un personnage, donc voilà, c'est encore un roman. Un roman, c'est des histoires, des personnages. Et j'essaie de donner vie, au-delà de mon ego ou de toute vanité, de donner vie, de redonner vie à des personnages comme ça qu'on ne connaît pas et de les rendre intéressants et touchants à travers ce récit.
Vous jouez toujours du piano ?
Oh oui, je joue beaucoup, beaucoup de piano depuis, plus encore depuis le premier confinement où ça a été l'occasion de m'y remettre. Il faut dire que peu de temps avant, justement, ma très chère Suzy Delair,
disparue il y a un an,
qui est morte il y a un an à l'âge de 102 ans, avait quitté son appartement et m'avait très gentiment donné son piano. Alors pour moi, c'était merveilleux, c'est un petit quart de queue Pleyel de 1938 que lui avait offert Henri-Georges Clouzot, sur lequel elle avait travaillé avec Georges Vamparis, Paul Misraki, Francis Lopez. Alors j'ai fait restaurer le piano, mais vous voyez, c'est un instrument qui a une histoire en plus, et j'en fais vraiment tous les jours maintenant. Ouais.
Suzy Delair, Jean Hubeau et quelques autres, voilà quelques-uns des personnages qu'on croise dans la deuxième partie de ce livre, une partie intitulée 14600 jours, qui sont donc le nombre de jours de...
C'est le nombre de jours entre 20 et 60 ans, voilà, 40 ans de vie, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 40 ans ?
Une longue traversée, dites-vous.
Oui, parce que je le redis, on peut revenir sans arrêt sur certains détails de notre apprentissage, de notre enfance, de notre adolescence. Puis après, il y a cette longue traversée de la vie d'adulte, d'ailleurs que Flaubert, hein, vous savez, dans l'éducation sentimentale, à la fin, résume en deux lignes de la vie de Frédéric, comme ça. Il y a toute cette vie d'adulte où finalement on fait mille choses, mais il n'y a plus vraiment de découverte, de fil conducteur, au même sens que dans l'enfance, donc c'est un peu flou. Et j'ai voulu essayer de reconstituer les fils de ces 40 ans. Alors, il y a le fil de la recherche des clés et des chaussettes, mais il y a aussi le fil...
Qui est quand même le point de départ.
Le point de départ. Mais il y a aussi le fil musical qui est très important dans cette seconde partie. Que ce soit d'un côté le fil de mes aventures, j'ai envie de dire, autour de la musique contemporaine et de mes combats et polémiques, où je reviens aussi sur avec mon ami Jean-François Zigel. On avait 25 ans tous les deux et on s'est lancé dans une... qui est une découverte un certain nombre de conflits même avec le milieu musical. Et puis il y a aussi cet hommage que j'ai voulu rendre à des musiciens que j'ai croisés, que j'ai connus, que j'ai aimés et dont il ne reste pas grand chose, qui ont été un peu des sacrifiés de l'histoire. Et il y a Jean Hubeau effectivement qui était ce compositeur et cet interprète à qui je dois notamment l'amour et la découverte de Forêt, de tous ses secrets, avec qui je dînais régulièrement. Avenue du Général Beuret, où il vivait avec sa femme. Il disait presque rien, l'appartement était toujours sombre, mais on se mettait autour du piano, puis il m'expliquait Guy Ropartz, Forêt, Vierne, etc. Et c'était merveilleux, parce qu'on a besoin des clés, vous savez, pour comprendre la musique. Et lui, il avait connu en direct tout ce monde musical français du début du XXe siècle. Et donc je rends hommage dans un chapitre, c'est toute une génération qui, je dirais, a pas été, est arrivé trop tard pour bénéficier de, voilà, de l'esprit groupe des six, tout ça, et en même temps, qui a été un peu balayé ensuite par l'avant-garde. Et alors, il y a, donc, je cite Hubo, Manuel Rosenthal, Jean Français, Jean-Michel Damaz, etc., qui ont été des gens que j'ai beaucoup aimé Marcel Landowski, et voilà, que j'essaie de faire revivre dans des petits portraits, là encore, aussi vivants que possible.
Et bien sûr, Suzy Delair.
Alors, oui.
C'est ici l'endroit redouté des mères, l'endroit effroyable où les fils mineurs font sauter l'argent gagné par leur père et rognent la dot promise à leur sein. Minuit sonne, écoutez, croyez et profitez. À minuit sonnant commence la fête, ma coupe s'arrête, on en voit sortir de jolis messieurs, des femmes charmantes qui viennent pimpantes pour se divertir. La fleur du panier, des brunes, des blondes, et bien entendu, des rousses aussi. Les jolis messieurs sont de tous les mondes, c'est un peu mêlé tout ce qu'on trouve ici. Oui, tout cela s'anime et se met en joie, froufrou de la soie le long des couloirs. C'est l'adagio et dont l'envoi brutal gronde tous les soirs. Rires éclatants, fracas du champagne, on cartonne ici, on danse la main, et le piano qui grince accompagne sur des airs connus d'étranges ébats. Le bruit monte, monte et devient tempête. La jeunesse en fête chante à plein gosier. C'est du plaisir ou de la furie, on parle et courir, tant qu'on peut prier. Quand on n'en peut plus, il faut bien se taire. La gaieté s'en va, petit à petit. L'un d'or est tout debout, l'autre d'or terre, et voilà comment la fête finit. Quand vient le matin, quand paraît l'aurore, on en trouve encore, mais plus de gaieté. Les joyeux viveurs sont mal à leur aise, et dans le grand ils s'en vont enfin, la mine blafarde, ivre de champagne et de faux amours, et le balayeur s'arrête et regarde, et leur cri, ohé, les heureux du jour.
Jacques Offenbach, Suzy Delair, le rondeau de Metella de la vie parisienne. Suzy Delair, figure importante de la vie de Benoît Duterte, notre invité ce matin, et de ce livre qui vient de paraître chez Gallimard, Ma vie extraordinaire. Votre vie parisienne, vous l'évoquez d'ailleurs, plusieurs moments de cette vie, les dîners, parfois mondains, certains aspects, je sais pas si on peut en parler, mais il y a des choses étonnantes. Moi, j'ai découvert que vous aviez été une manutentionnaire au BHV.
Mais oui, c'est comme ça. Ouais. C'est mes années de galère, comme dirait Verdi. Enfin, je ne me mets pas aussi haut, mais c'est vrai que j'ai eu mes années de galère. Après mon arrivée à Paris de jeune Rubempré au Rastignac, désirant conquérir la capitale et passant mes nuits au bain-douche dans les boîtes à la mode de l'époque. Après, j'ai eu la descente, la chute. je me suis retrouvé tout désargenté, sans aucune perspective. Et là, j'ai fait tous les
métiers possibles. La drogue aussi, hein, qui est quand même...
Il y a pas mal de drogue à l'époque.
À cette dette.
D'ailleurs, qui a contribué à cette dette, comme vous dites. Et donc, je me suis rattrapé dans les sous-sols du BHV en poussant des chariots en métal pour porter les livraisons au 34 Verri, ça s'appelait le point de retrait, je me rappelle. Et oui, voilà, je reviens bien sûr aussi sur tous ces épisodes, justement pour essayer de raconter ça un petit peu comme un roman, parce que voilà, toute vie d'une certaine façon est romanesque, et c'est le propos de ce livre.
Quand on le referme, on voit une carte aussi qui va de Paris, donc à New York, en passant par Sévouges, Étretat, Le Havre.
C'est toujours du est-ouest, hein, c'est jamais du nord-sud. Vous voyez, c'est
pas vraiment
un axe comme ça.
Et puis des belles maisons aussi, votre goût pour ces lieux.
Oui, j'explique. Là encore, évidemment, c'est un peu d'auto-ironie au début de ce chapitre, qu'en fait, je suis beaucoup plus attaché aux maisons qu'aux êtres humains, mais qu'en fait, en même temps, les belles maisons m'ont rapproché de leurs propriétaires, ce qui n'est évidemment pas tout à fait le cas. Mais j'ai essayé de faire le portrait d'un certain nombre de lieux et de leurs habitants qui m'ont beaucoup marqué. Et il y a notamment, par exemple, ce manadier de Provence qui s'appelait Jean Lafon, qui avait été très proche de Marie-Laure de Noailles, chez qui j'ai rencontré tout un monde parisien un peu disparu. Il y a ma vieille amie Elisabeth Bernard, qui était une musicologue et dont le mari était un grand pianiste, avec leur merveilleuse maison en Normandie, pleine d'instruments de musique, où je passais tout mon temps. Et puis il y a les voyages à New York, avec mon camarade Zigel, à la recherche de Steve Reich, de Phil Glass et de toute cette nouvelle musique qu'on n'écoutait pas tellement encore en France. Voilà, c'est le côté géographique aussi de ce livre. Oui.
On est vieux à 61 ans, Benoît Duteur?
Non, pas du tout. Alors, simplement, on peut faire un autoportrait à n'importe quel âge de la vie, hein, même à 20 ans. Et voilà, moi j'ai choisi cet âge-là de 60 ans pour faire une espèce d'autoportrait aussi complet que possible, se terminant par une évocation de la vieillesse à travers celle de ma grand-tante Rosemonde et de Suzy Delair.
Ma seule jauge de l'univers est mon bien-être, écrit Benoît Duteurtre dans ce livre, qui est d'abord un très beau livre d'amour et d'amour pour votre compagnon Jean-Sébastien que vous évoquez, et on comprendra aussi pourquoi. Pourquoi la musique avec laquelle on se quitte, Duke Ellington, vous donne parfois des larmes aux yeux. Merci beaucoup Benoît Duteurtre, et rendez-vous samedi à 11h avec...
Avec Sandrine Saroche, une humoriste et qui adore chanter et qui est vraiment formidable.
Merci. La vie beaucoup, extraordinaire vient de paraître chez Gallimard. Diminuendo and crescendo in blue, Duke Ellington, que vous retrouverez dans Ma vie extraordinaire de Benoît Duteurtre, qu'on retrouve samedi à 11h sur France Musique. Demain, notre invité sera la pianiste Célia Onetto Ben Saïd.
À réécouter sur francemusique.fr.